c'est à vous.
Alors oui, je crois que c'est bon. Il y a quelques jours, Manuel Maria Carillo, ambassadeur du Portugal à l'UNESCO, ouvrait un point de vue publié dans Le Monde par ces mots. Qui, de nos jours, attend encore la parole de l'UNESCO? Et sans forcer le trait, je pourrais dire, pour ouvrir mon exposé, qui dans l'entre-deux-guerres entend la parole de l'Organisation de coopération intellectuelle qui dépendait de la Société des Nations et qui fonctionna entre 1921 et 1946 et qui fut la première tentative d'une coopération internationale intellectuelle institutionnalisée et que je voudrais présenter ce matin sous trois angles, d'une part celui de son histoire, d'autre part celui de ses réalisations et enfin celui de son bilan. D'abord l'histoire. Il n'était pas évident de créer une telle organisation qui n'était pas prévue dans le pacte de la Société des Nations en 1919. Et pourtant, en 1921, le Conseil et l'Assemblée de la SDN décident de créer un organisme de coopération intellectuelle, cette OCI, pour développer la collaboration entre les intellectuels, bien sûr, mais aussi pour former un esprit international de nature à favoriser l'action de la paix défendue par la SDN. Deux raisons fondamentales expliquent cette création. D'une part, la reconnaissance qui se fait progressivement entre les deux missions assignées à la SDN, d'une part garantir la paix et la sécurité, et d'autre part développer la coopération entre les nations. C'est ce que souligne d'ailleurs Gilbert Murray, université britannique et président de la commission de coopération intellectuelle entre 1928 et 1939, quand il déclare, je cite, « L'avenir de la Société des Nations dépend de la formation d'une conscience universelle qui ne peut naître et croître que si les savants, les penseurs et les écrivains de tous les pays entretiennent des rapports fréquents et propagent d'un pays à l'autre les idées qui doivent assurer la paix entre les peuples. » La deuxième raison de cette création de cet institut, de cette organisation plutôt, c'est l'action des pays latins, francophones, francophiles, emmenés par la France, qui espèrent retirer de cette organisation un surplus d'influence culturelle et politique, sachant que toutes les initiatives qui seront susceptibles de fortifier la Société des Nations dans ce début des années 20 pourront garantir le statu quo issu des traités de Versailles et donc la position diplomatique de la France. L'Organisation de coopération intellectuelle, c'était son nom, OCI, est formellement reconnue par la CSDN en 1931 et se composait de quatre principaux organismes. Le premier était la Commission internationale de coopération intellectuelle, CICI, inaugurée en janvier 1922. Le deuxième était l'Institut international de coopération intellectuelle, qui est inauguré à Paris en 1926. S'ajoutaient à cela des commissions nationales de coopération intellectuelle dans différents pays. Et enfin, à Rome, un institut international du cinématographe éducatif créé en 1928. Le destin de ces organismes ne sera pas le même. Les commissions nationales ont survécu et survivent dans le cadre de l'UNESCO aujourd'hui. En revanche, la commission, la CICI, tiendra sa dernière session en 1939. L'Institut du cinématographe éducatif sera fermé par l'Italie en 1937 quand il quittera la SDN. Enfin, l'Institut de coopération intellectuelle fermera ses portes en juin 1940, restera fermé pendant toute l'occupation, rouvrira en 1945 et disparaîtra en novembre 1946 pour laisser la place à l'UNESCO. Tous les projets développés par la France pour maintenir cet institut ayant échoué devant les projets anglo-saxons d'une autre organisation. Quelles étaient, et ce sera mon deuxième point concernant l'histoire de cette organisation, les structures. J'insisterai sur les deux éléments principaux de cette OCI, cette Organisation de coopération intellectuelle. Le premier, l'organe directeur, était la Commission de coopération intellectuelle, inaugurée, je l'ai dit, en janvier 1922, qui tient une session chaque année en juillet et qui est composée d'hommes et de femmes, 12 en 1922, 18 en 1939, qui sont choisis par la SDN, mais qui ne représentent pas leur État. Ils sont choisis en tant qu'intellectuels et en raison de leur autorité morale. Le deuxième organisme important, c'est celui de l'Institut de coopération intellectuelle, qui est fondé à la suite d'un appel lancé par Henri Bergson en janvier 1924 aux États pour l'aider dans le travail de la Commission financièrement. Le gouvernement français de Cartel des Gauches, en juillet 1924, propose donc de créer, de fonder, d'entretenir à Paris un institut de coopération intellectuelle. Cette offre est motivée d'abord par le souhait de consolider le climat de détente qui existe en Europe à partir de 1924 et aussi pour développer, encore une fois, l'influence culturelle de la France qu'elle exerce déjà au sein de la Commission. Bergson est le président de cette Commission et qui ne manquera pas de s'exercer puisque l'Institut sera à Paris. Il est inauguré en janvier 1926 et s'installe au Palais Royal. Le but de cet institut est triple, préparer les délibérations de la Commission, faire exécuter ses décisions et, de façon plus large, développer la collaboration des intellectuels sur le plan international. Il est présidé par un conseil d'administration et un directeur, directeur qui sera, pendant toute son histoire, français. Cette organisation de coopération intellectuelle, et ce sera le dernier point de cette présentation historique, a été marquée, son histoire brève, a été marquée par deux réformes, en 1930 et 1938. La première est liée à l'évolution de l'Institut de coopération, l'Institut de Paris, pendant cette deuxième moitié des années 20, caractérisée par une diversification des activités qui a entraîné une certaine dispersion, caractérisée également par un nombre important de fonctionnaires, générateurs d'une certaine bureaucratisation, caractérisée surtout par la volonté de rayonnement et d'autonomie par rapport à la SDN de son premier directeur, qui était Julien Luchaire. Cette évolution suscite des critiques de plus en plus vives du secrétariat de la SDN de Genève et également du Royaume-Uni, toujours prompte à montrer du doigt l'impérialisme culturel français qui peut s'exercer dans ce cadre. Alors, ces critiques aboutissent à une réforme de l'ECI en 1930 qui va d'une part replacer l'Institut dans le contrôle de la Commission, qui va également réduire le caractère bureaucratique de l'Institut qui perd quasiment 40% de son personnel et enfin qui va réduire également l'influence de la France sur l'Institut qui reste néanmoins à Paris. Cette nouvelle organisation donne des résultats tout à fait satisfaisants. Elle est d'ailleurs symbolisée par le remplacement à la tête de l'Institut de Julien Luchaire, son premier directeur, qui était un haut fonctionnaire français très soucieux de développer l'influence culturelle de la France, par Henri Bonnet, qui était un de ces nouveaux fonctionnaires internationaux secrétés par la Société des Nations. Il était au secrétariat donc auprès de Joseph Avenol, secrétaire général adjoint de la Société des Nations. Et ce changement donne satisfaction à tout le monde. Le problème est que très vite, dans les années 30, et j'y reviendrai dans un instant, cette réforme trouve ses limites dans un contexte de crise financière, de budget déficitaire pour l'Institut, et qu'il faut assez vite essayer de trouver les moyens d'assurer une pérennité à l'Institut sur le plan financier, pour lui donner des ressources régulières. Et c'est à cet effet qu'une conférence diplomatique se réunit à Paris en novembre-décembre 1938 qui va établir un acte international de la coopération intellectuelle qui vise à établir un barème en francs or dont tous les États auxquels tous les États pourraient participer, membres ou non de la Société des Nations, et qui, cette réforme, visait donc à assurer des ressources régulières. Cet acte va entrer en vigueur, il sera signé par un certain nombre de pays. Il est rentré en vigueur au début de l'année 1940, mais bien sûr, il ne pourra pas donner toute sa mesure, puisque, je l'ai dit, l'Institut ferme en juin 1940. Après avoir rappelé cette brève histoire de l'organisation, je voudrais maintenant voir les réalisations de cette organisation de coopération intellectuelle. Le premier volet est une action de coordination. L'organisation n'a jamais rien produit par elle-même. Elle a simplement essayé de chercher, essentiellement par le biais de l'Institut de Paris, à faciliter la collaboration des intellectuels en facilitant, en permettant des enquêtes dans différents domaines, en essayant de coordonner des initiatives privées ou d'associations internationales. Et tous les champs de l'activité intellectuelle ont été balayés par cet Institut. Quelques exemples. Le désarmement moral, quand l'Institut a travaillé sur l'enseignement des principes de l'SDN, sur la révision des manuels scolaires, sur l'usage pacifique de la radio ou du cinéma. Autre domaine, l'enseignement, quand on a évoqué les problèmes d'équivalence de diplômes, d'échange de professeurs et d'étudiants, mais aussi la coordination dans les sciences, la traduction d'ouvrages littéraires, pour mieux faire connaître le patrimoine culturel de chaque pays, la conservation et la protection des œuvres d'art, la collaboration des bibliothèques, la défense des droits intellectuels, le problème du droit d'auteur, sans parler même des publications et des brochures de l'Institut. Donc un champ vraiment très vaste. Il me semble cependant que l'élément le plus original de ces réalisations fut la mise en place d'espaces de discussion et de réflexion sous le patronage de l'Institut pour rapprocher les intellectuels et les peuples, avec un double but. D'une part, faciliter le règlement des problèmes internationaux en développant des enquêtes, en stimulant des enquêtes dans le cadre d'une conférence qui s'appelait la Conférence permanente des hautes études internationales et qui réunissait des experts sur les problèmes d'actualité, politique ou économique. Mais le deuxième but de, cette action de coordination était de jeter les bases, et je pense que ça c'est sans doute le plus important, d'une sorte de morale universelle, en favorisant un dialogue entre les intellectuels par le biais d'un comité, le comité permanent des lettres et des arts, qui a généré d'une part une correspondance entre différents intellectuels, donc les lettres furent publiées ensuite, par exemple entre Einstein et Freud, et qui aussi ont généré des entretiens. C'était le nom donné à ces réunions d'intellectuels qui ont eu lieu entre 1932 et 1938 sur des sujets concernant la civilisation européenne. Et cette initiative me semble révéler à court terme les espoirs nourris par beaucoup d'intellectuels de pouvoir contribuer finalement au rapprochement des peuples à ce moment-là. Et à plus long terme, ces initiatives révèlent une troublante parenté en termes de questionnement par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, oui, je crois que l'élément le plus fondamental a été, si on voit les réalisations de l'Institut, cette contribution au débat sur la dimension politique de la culture, politique étant à entendre au sens le plus général du terme. Il s'agissait, dans ces entretiens et cette correspondance, d'affirmer, et c'est ce qui ressort de ces ouvrages et de ces propos, d'affirmer le rôle de la culture dans le rapprochement des peuples et d'établir finalement un humanisme et des valeurs universelles. C'est ce que dit Freud dans sa correspondance avec Einstein quand il écrit, je cite, « Tout ce qui travaille au développement de la culture travaille aussi contre la guerre ». Cet engagement des intellectuels avait quatre objectifs principaux. D'une part, combattre le nationalisme que Huizinga, néerlandais, évoque en termes de caricature du vrai patriotisme et que Aldous Huxley évoque comme étant la cause primordiale de la guerre. Le deuxième objectif, c'était de travailler par différents moyens à créer une conscience européenne, à rendre plus, à moins abstrait l'idée d'Europe, ces intellectuels, tout rationnels qu'ils fussent, étant tout à fait conscients de l'importance des mystiques pour susciter des élans populaires. Le troisième objectif, c'était d'instituer rien moins qu'un gouvernement supranational doté de pouvoirs contraignants et d'une force armée, ce que n'était pas la Société des Nations à l'époque. C'est ce qu'écrit Freud, je le cite, « voie qui mène à la sécurité internationale et qui impose aux États l'abandon sans condition d'une partie de leur liberté d'action, en d'autres termes de leur souveraineté. » Sachant que cette évolution supposait que la Société des Nations soit porteuse d'une véritable identité collective des nations et crée une sorte de patriotisme international qui puisse être une sorte de pendant affectif des valeurs universelles qu'elle défendait. C'est ce qu'écrit Jules Romain en disant « Je reproche à la SDN d'être une œuvre trop purement administrative, raisonnable et tranquille, d'être trop exclusivement une œuvre de sagesse bureaucratique. Je voudrais que l'on fît pour elle des manifestations populaires et passionnantes qui remuent les foules. » Le quatrième objectif était, et je pense que là aussi nous sommes dans des questionnements modernes, d'affirmer les droits de l'homme. Salvador de Madariaga déclare « Il faudrait établir un code simple et court de principes universels sur l'homme qui serait explicitement reconnu comme obligatoire par tous et partout et qui, enseignant les écoles, deviendrait la base d'une morale universelle et qui donnerait à l'humanité une loi commune, une solidarité, en quelque sorte une consanguinité morale faisant de la race humaine comme une vaste famille. » Morente ajoute « On pourrait établir les droits de l'homme international, un code de droit imprescriptible de l'humanité comme tel, qui ne pourrait être foulé aux pieds par aucun pouvoir. » C'est-à-dire qu'au moment même, nous sommes dans les années 30, où l'Allemagne nazie affiche une idéologie raciste et proclame l'inégalité fondamentale intrinsèque des peuples et foule aux pieds l'humanisme des Lumières, des intellectuels européens disent leur croyance en l'unité organique de l'humanité, en l'existence de valeurs universelles et préfigurent ainsi, d'une part, la Déclaration universelle des droits de l'homme votée par l'ONU en décembre 1948, mais aussi la création de notions juridiques nouvelles, comme celle de génocide ou de crimes contre l'humanité en 1945. Pour autant, ces prises de position contenues dans cette correspondance et ces entretiens est quelque peu atténuée par trois éléments. Le premier, c'est que l'impact de ces discussions reste limité à un cercle très étroit, leurs participants ou les lecteurs des publications qui en sont tirés. Deuxième bémol, c'est que les intellectuels européens ne sont pas unanimes. Et lors de ces réunions, des points de vue divergents s'expriment, qui renvoient à des idéologies fascistes. L'allemand Kaeserling fait l'éloge, je cite, des élans vitaux. Il prend le contre-pied également du rationalisme humaniste en écrivant « Les premières manifestations de l'esprit sont le courage et la foi, non pas l'intelligence. » Coppola, l'italien, développe une pensée antilibérale. Je cite, c'est un acte de liberté que de reconnaître comme chef quelqu'un qui, à un certain moment de l'histoire, représente ce qui est le désir, le besoin, la poussée vitale d'un certain peuple. Tous font de la nation la base de l'humanité et insistent sur l'inégalité des hommes et des peuples au point de vue politique et social, refusant ainsi de reconnaître l'existence de valeurs universelles. Kaeserling écrit « Sur le plan politique, il n'y a pas d'humanité, mais des nations en lutte ». Le troisième bémol concerne en fait la stratégie que l'organisation va adopter dans les années 30, une stratégie d'apolitisme qui est censée, selon elle, préserver son audience, mais qui va s'avérer, à mon sens, une impasse et qui amène à évoquer, ce sera mon troisième et dernier point, le bilan de cette organisation de coopération intellectuelle. Alors, un peu comme pour la Société des Nations, le bilan doit être envisagé sur deux aspects, le bilan technique et le bilan politique. En ce qui concerne le bilan technique, il me semble assez honorable, même s'il est inachevé, bien entendu. Il me semble assez honorable, eu égard d'ailleurs aux obstacles, sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, aux obstacles financiers et surtout diplomatiques des années 30. D'une part, l'OCI a rallié à elle de très nombreux intellectuels. On a parlé de Bergson tout à l'heure, premier président de la Commission, mais on pourrait citer Einstein qui en a fait partie pendant quelques années, ou Marie Curie encore, et d'autres. Elle a créé également des relations assez nourries entre différentes organisations intellectuelles. En deuxième lieu, et ça n'est pas négligeable, elle a démontré la nécessité d'une organisation du travail intellectuel et préparé ainsi le terrain à l'UNESCO, qui, comme elle, est fille de la guerre, qui, comme elle, l'OCI, a un même but, rapprocher les peuples pour favoriser la paix, et dont le programme, d'ailleurs, initial, excusez-moi, en 1946-47, reprend la droite ligne du programme de l'OCI finissante à la fin des années 30. Même si la structure d'ailleurs des deux organisations est différente, c'est précisément en tirant l'expérience de l'échec de l'OCI que l'UNESCO s'est construite, à la fois en essayant d'être beaucoup plus, je dirais, populaire, en travaillant sur la vulgarisation de son travail et l'éducation, et deuxièmement en ayant une structure intergouvernementale qui lui permettait d'avoir l'appui des États et de faire appliquer ses décisions. Plus largement, je crois que l'OCI permet peut-être de réhabiliter la Société des Nations, dont le discrédit évidemment est total et dont l'oubli l'est encore plus, hein, parce qu'elle a échoué dans sa mission purement politique, défendre la paix bien sûr, mais la plupart des organisations spécialisées aujourd'hui qui dépendent de l'ONU ont commencé leur travail, sous d'autres noms parfois, mais ont commencé leur travail dans les années 30 et dans les années 20 sous l'égide de la SDN. Évidemment, il reste cependant que le bilan politique, lui, reste marqué par un échec patent, puisque la guerre éclate en 1939, alors que l'organisation était destinée à rapprocher les peuples. Cet échec, à quoi est-il dû? Il me semble qu'il est dû à une combinaison de deux facteurs, des facteurs internes qui tiennent à la structure et au fonctionnement de l'organisation, et des facteurs externes qui tiennent au contexte dans lequel cette organisation a vécu. Les facteurs internes d'abord, les conceptions, l'organisation, les structures de cette OCI ont largement amoindri son efficacité. De quoi s'agit-il? D'abord, les conceptions de cette organisation, conçues de manière assez élitiste, les intellectuels étant censés être un peu les éclaireurs des bases, de sorte de pionniers. Le fait est que les publications de l'Institut, quand on les regarde, sont très techniques, sont austères, s'adressent à un public restreint de spécialistes, ne montrent pas d'efforts de vulgarisation et d'ailleurs avaient un tirage très limité. Les structures. L'organisation a toujours manqué de légitimité. Elle est arrivée en 1921, mais elle a été acceptée du bout des lèvres. Elle n'était pas prévue dans le pacte de la Société des Nations, et de nombreux États l'ont longtemps, voire toujours, considérée comme superflue, secondaire, d'abord parce qu'elle reniait, ou éventuellement elle pouvait renier la souveraineté de ces États, et deuxièmement parce qu'elle pouvait générer des dépenses, puisque le budget de la SDN s'en trouvait alourdi. Autre élément, c'est que les membres de la Commission, tout au relais de leur autorité morale qu'ils fussent, n'avaient pas les moyens politiques de faire appliquer leurs décisions. Or, les États sont des partenaires obligés dès lors qu'on veut avoir une action concrète. Et cette situation renvoie de façon plus large justement au contexte international et à l'attitude des États, notamment dans les années 30. Alors, ces facteurs externes, c'est le contexte financier, politique des années 30 qui va évidemment contrarier, on l'imagine, l'action de l'OCI. Sur le plan financier d'abord, car l'ASDN a aussi souffert de la crise. Les contributions des États ont été réduites, et donc le crédit alloué à la Commission par le secrétariat de Genève s'en est trouvé réduit. Mais l'Institut lui-même a beaucoup souffert, car les contributions gouvernementales ont aussi décru, et le déficit du budget de l'Institut, donc ses moyens d'action, en ont pâti, évidemment. Le fait est que la France supportait à elle seule l'essentiel des dépenses de cet Institut. Mais évidemment, l'ECI a vu son action contrariée d'abord et avant tout par des raisons politiques. L'essor, et je crois que là je n'ai pas insisté, l'essor de régimes autoritaires, de régimes nationalistes, racistes, bellicistes, qui usaient de répression, de censure, de propagande en faveur des idées hostiles aux principes universalistes et pacifistes de l'ECI, bien sûr, a largement empêché cette dernière d'avoir une action efficace. Mais l'ECI a aussi souffert d'être boudée par les grandes puissances. Je disais à l'instant que la France a supporté les trois quarts, en gros, des dépenses de l'Institut, du budget de l'Institut. Hein, une seule grande puissance à cette époque a aussi subventionné régulièrement, c'est l'Italie, à un moindre degré, mais jusqu'en 1937, l'Italie a versé une subvention. Mais jamais un centime n'est sorti des caisses américaines, soviétiques, allemandes ou anglaises ou japonaises, pour évoquer les grandes puissances, pour alimenter le budget de cet Institut. Le dernier point, et je crois que c'est la dernière raison de cet échec, c'est la stratégie dont je parlais, cette stratégie d'apolitisme, cette stratégie d'autonomie aussi, développée par l'OCI dans les années 30, dans le but de sauvegarder son universalisme, mais qui l'a conduit, et je vais insister là-dessus, à finalement tourner le dos à ses principes fondateurs. Dans les années 30, les responsables de l'OCI estiment effectivement nécessaire de développer une stratégie fondée sur deux principes, apolitisme, d'une part, autonomie par rapport à la société des nations. Ces deux principes sont supposés assurer sa survie en permettant la participation de tous les États et son efficacité en favorisant l'application de ses décisions. Mais, je l'ai dit, et j'y reviendrai, ils vont aller à l'encontre de ces principes fondateurs. En effet, l'autonomie d'abord. Durant les années 30, l'OCI est particulièrement l'Institut qui devient la cheville ouvrière, ne serait-ce que parce que l'Institut, il est là en permanence. La commission ne se réunit qu'une fois par an. Cette organisation va essayer de prendre sa distance à la fois par rapport à la France et à la fois par rapport à la société des nations. Par rapport à la France, ce sera relativement facile parce que la réforme de 1930 avait déjà réduit l'influence de la France et dans les années 30, on comprend bien que le gouvernement français a d'autres chats à fouetter que les problèmes de la coopération intellectuelle. Par rapport à la société des nations, d'abord parce que financièrement, on l'a dit, ce que la société verse à l'OCI est de moins en moins important, et deuxièmement, parce qu'à partir des années 30, la SDN se trouve politiquement totalement discréditée par son incapacité à répondre aux agressions des dictatures qui commencent dès 1931 en Chine. Le Japon attaque la Mandchourie. Alors, dans ces conditions, la faillite des organismes politiques de la SDN va convaincre les responsables de l'ECI, en particulier deux hommes, Gilbert Muret, président de la commission de coopération intellectuelle à partir de 1928, et Gonzague de Reynold, membre suisse de la commission, intellectuel suisse. Ces deux hommes ayant la particularité d'avoir siégé continuellement, les seuls, à la commission de 1922 à 1939, va les convaincre de détacher l'OCI de la SDN et, d'une certaine manière, de renverser les priorités. Alors qu'au départ, l'OCI était considéré comme un moyen pour atteindre un but qui était d'assurer la paix et d'aider la société nationale dans sa mission, l'OCI est considéré désormais, la mission de l'OCI est considérée comme une fin en soi, la coopération des intellectuels est considérée comme une finalité pour préserver précisément tous les canaux possibles de coopération internationale à un moment où le climat politique se détériore. C'est ce que déclare en décembre 1933 Gilbert Muret, je cite, « La coopération intellectuelle doit être universelle et autant que possible indépendante de la politique », tandis que Reynold se dit, je cite, « sûr que même si la SDN tombait, la coopération intellectuelle devrait continuer ». Cette ligne apolitique a trois raisons. D'une part, le souvenir de la division de la communauté intellectuelle générée par l'Union sacrée en 1914, qui a laissé un mauvais souvenir, et personne ne veut découdre ce tissu qui a été recousu dans les années 20. Le deuxième point, c'est que beaucoup d'intellectuels pensent que les tensions, notamment avec l'Allemagne, sont passagères, et on ne veut pas couper les ponts avec un si grand pays. Enfin, cet apolitisme est conçu comme la clé du succès de l'OCI à long terme. C'est ce qu'écrit Reynold très, très clairement en 1934 en disant que la politique est source de division. Et donc l'OCI doit rassembler les intellectuels. La coopération intellectuelle, écrit-il, doit se tenir au-dessus des contingences politiques, estimant que plus les nations du monde seront forcées à se replier sur elles-mêmes, plus se feront sentir les divisions qui séparent les peuples, plus aussi nous devrons travailler à l'union et à la collaboration des esprits. Ce qui se défait par en bas, nous devons le rétablir par en haut. Précisément parce que cette vie internationale traverse une crise, s'affirme la nécessité de la coopération intellectuelle. Du coup, toutes les questions à forte coloration politique, désarmement moral, manuel scolaire, etc., sont abordées en termes très généraux, acceptables par tous. Aucun État n'est mis en accusation. Et d'ailleurs, on l'a dit, la Commission n'aurait pas le moyen d'obliger tel ou tel État à agir. Cette stratégie est-elle payante ? Non, malheureusement. L'universalisme ne tient pas la route. L'Allemagne quitte l'OCI en 1933, comme la SDN. L'Italie quitte l'OCI en 1937, comme elle le fait avec la SDN. Les États-Unis eux-mêmes, qui ont fait les yeux doux, n'entreront jamais officiellement à l'OCI, même si des intellectuels américains ont pu siéger à la Commission. Mais pire, me semble-t-il, c'est que l'OCI en arrive à oublier sa mission originelle, qui était d'abord et avant tout politique. Et elle arrive à cautionner des régimes qui sont des dictatures bellicistes, nationalistes, on l'a dit, qui veulent contrôler toute l'activité intellectuelle. Quelques exemples. En 1930, l'Institut refuse d'aider des intellectuels ukrainiens persécutés en Pologne ou en URSS. En 1931, l'Institut refuse d'intervenir en faveur de professeurs d'université italiens à qui le régime fasciste impose un serment. En 1936, l'Institut refuse de faire imprimer des livres d'auteurs juifs qui sont interdits en Allemagne. Enfin, en 1937, l'Institut refuse de condamner publiquement la destruction de l'université de Nankin par le Japon, alors même qu'au même moment, l'Institut publie des traductions d'ouvrages japonais à la demande du gouvernement japonais. Et donc, on a une organisation impuissante face à des États qui bafouent les principes démocratiques, universalistes, pacifiques, et qui persécutent les intellectuels. Et l'OCI, finalement, en arrive à faire passer la coopération avant les intellectuels. D'autant que l'apolitisme n'est pas la seule réponse possible à l'époque. Beaucoup d'intellectuels se sont engagés. Et il est intéressant à cet égard de noter que ces deux hommes, Murray et Reynolds, qui sont les deux partisans de l'apolitisme, sont aussi des ressortissants d'États qui ont pratiqué vis-à-vis de l'Allemagne nazie une politique soit de neutralité, soit de conciliation. Et l'OCI, finalement, exerce une sorte d'appeasement intellectuel, hein, pour reprendre cette formule sur la diplomatie anglaise, qui reflète, au bout du compte, l'impuissance, le repli des grandes puissances démocratiques et leur incapacité de mener un combat idéologique, puisqu'il s'agissait de cela, un combat idéologique en faveur de valeurs universelles bafouées par le régime totalitaire. Je conclurai sur un point, sur le fait qu'il me semble que, malgré cet échec, le legs le plus vivant de l'OCI me semble être celui des principes qui ont fondé son action et qui établissent une évidente filiation entre elle et l'institution qui lui a succédé, l'UNESCO, puisqu'après tout, elles veulent rapprocher les intellectuels, mais aussi les peuples, pour assurer la paix. Paul Valéry, en 1930, a très bien présenté cette idée en disant que l'OCI était le pilier de l'œuvre de rapprochement international entreprise par la SDN. Et je le cite, il dit « L'OCI est indispensable à la création d'un état d'esprit qui puisse engendrer et supporter une société des esprits, laquelle est la condition d'une société des nations. » Cette idée que la coopération intellectuelle est la pierre angulaire de toutes les formes de coopération a été d'ailleurs réaffirmée dans le préambule de la Convention du 16 novembre 1945 qui fonde l'UNESCO et qui commence par cette phrase célèbre « Que les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. » Plus récemment, en septembre 2009, il y a deux mois, presque 65 ans plus tard, Irina Bokova, nouvelle directrice générale de l'UNESCO, ne disait pas autre chose en disant vouloir construire un nouvel humanisme. Et Manuel Carillo, que je citais en introduction, finit son article en demandant, en espérant que l'UNESCO devienne, je cite, « un véritable laboratoire d'idées à vocation universelle », ce qui est un hommage sans doute involontaire, mais révélateur à ce que précisément voulut être l'OCI. De sorte que, et ce sera mon dernier mot, l'échec politique de l'OCI ne remet pas en cause, à mon sens, le bien fondé de l'engagement des intellectuels qui y participèrent, la justesse des principes qu'ils défendirent et qui, en ce début du XXIe siècle, gardent toute leur actualité. Parce que, pratiquement à un siècle de distance, dans un monde qui est bouleversé par une mondialisation qui unifie tout autant qu'elle fragmente, il me semble que l'une des questions fondamentales est celle-ci. Face au trop-plein matériel, économique, financier, stratégique et générateur de confrontations, d'affrontements, donc de divisions, comment éviter un vide d'intelligence, c'est-à-dire, au sens étymologique du terme, un vide de compréhension générateur d'un humanisme universel et qui soit source, bien au contraire, de tolérance, d'échange, et de rapprochement des peuples. Je vous remercie.